Un journal présenté ce soir par Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. De nombreuses capitales dans le monde appellent ce soir à la désescalade. C'est la conséquence du raid américain qui a tué la nuit dernière le général Soleimani, fer de lance de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Les États-Unis se livrent ce soir à une entreprise de justification alors que leur action risque de déstabiliser un peu plus la région. Nous serons à Washington avec notre correspondant Grégory Phillips. Puis nous verrons comment Téhéran peut réagir alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent déjà dans la capitale depuis ce matin. Enfin, Israël est sur le qui-vive. Le Premier ministre Netanyahou écourte un déplacement. Pas trop de commentaires publics pour l'instant dans un pays qui s'inquiète des représailles des alliés de Téhéran. En France, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi, mais c'est un drame qui s'est produit à Villejuif, en région parisienne. Une attaque au couteau vers 14h qui a fait un mort et deux blessés. L'étau se resserre autour de l'écrivain Gabriel Matzneff. Une enquête préliminaire pour viol a été ouverte au lendemain de la sortie du livre de Vanessa Springora. À l'approche de la reprise des négociations avec le gouvernement sur les retraites, l'intersyndicale est déterminée. 3 journées de mobilisation consécutives désormais planifiées la semaine prochaine, les 9, 10 et 11 janvier. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur le terrain ce matin pour tracter à Paris. Reportage de Cédric Hermel dans un instant. Et puis l'enquête de France Culture ce vendredi, elle concerne les minorités chinoises en France. Ils sont Ouïghours ou encore Tibétains, mais aussi étroitement surveillés par Pékin. Explication de Nathanaël Charbonnier à la fin de ce journal. Au lendemain de la mort du général iranien Qassem Soleimani, abattu en Irak la nuit dernière dans un raid américain à Washington, les autorités se livrent à une grande opération d'explication et de justification. Cette initiative, en effet, n'est pas sans risque pour un Moyen-Orient déjà mis à l'épreuve par la guerre en Syrie. Mais Donald Trump et ses lieutenants assument cette décision d'avoir abattu l'un des hommes clés du régime iranien. Pour s'en convaincre, un coup d'œil ce soir sur le fil Twitter du président américain. Le drapeau des États-Unis est épinglé, bien en évidence. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Anne.
Correspondant permanent de France Culture à Washington, Donald Trump s'est aussi exprimé sur sa page Twitter. Il semble même regretter de ne pas avoir pris cette décision plus tôt.
Oui, Donald Trump, qui est en Floride en ce moment, a effectivement tweeté en début de matinée ici sur la côte est des États-Unis pour dire que ce général Soleimani avait sur les mains le sang de milliers d'Américains et qu'il prévoyait d'en tuer d'autres, mais il a fini par se faire attraper, écrit Trump. Il aurait dû être tué depuis longtemps, allusion au fait que ses prédécesseurs, et notamment Barack Obama, n'avaient pas planifié une telle opération. Mais il y avait cette fois un projet d'attaque immédiat, imminent, affirme à la fois Trump et Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, sans donner plus de détails. Pour les États-Unis, le général Soleimani était en train de préparer une action d'envergure, a même dit le secrétaire d'État. Elle aurait mis en danger des dizaines, voire des centaines de vies américaines. Et c'est pour ça que nous avons pris cette décision de le neutraliser, a dit Mike Pompeo tout à l'heure sur CNN, sur la base d'informations recueillies par nos services de renseignement. Alors, de quel type d'attaque pouvait-il s'agir? Plusieurs analystes américains pensent que des milices pro-iraniennes étaient sur le point de kidnapper des ressortissants américains en Irak, d'où un ordre d'évacuation lancé aujourd'hui à tous les ressortissants américains présents dans le pays. Puis il ne faut pas oublier non plus que le général Soleimani a été pris pour cible 2 jours seulement après la tentative de mise à sac de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, précisément par des miliciens du Hezbollah pro-iranien. Les images ont choqué ici aux États-Unis et cela a forcément pesé dans la décision de Donald Trump.
Merci Grégory Phillips pour vos précisions en direct de Washington. En Iran, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer la mort du général Qassem Soleimani. Après la prière du vendredi, la foule a rempli les rues du centre de la capitale Téhéran avec des mots sans concession demandant, je cite, « mort à l'Amérique ». L'Iran, où le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a décrété un deuil national de 3 jours. Le Conseil suprême de la sécurité nationale promet également de venger son général au bon endroit et au bon moment, précise un communiqué. L'Amérique n'évitera pas les conséquences de ce mauvais calcul, ce qui confirme l'analyse du chercheur Reza Djalili. Il est politiste à l'Institut des Hautes Études de Genève, l'Iran, qui selon lui ne se risquera pas à une initiative militaire d'ampleur.
Ils vont essayer, évidemment, de riposter de façon au moins symbolique, mais en même temps, ils sont quand même assez prudents pour essayer d'éviter que ça ne dégénère pas une véritable guerre ouverte avec les États-Unis. Jusqu'à présent, la politique iranienne a été d'éviter une confrontation directe avec les États-Unis, mais peut-être contre certains intérêts américains en Irak ou dans d'autres régions, ils vont mettre en place certaines actions. Je ne pense pas que ni le guide de la révolution, ni d'ailleurs M. Trump, à ce niveau, de toute façon, veulent vraiment se lancer dans une guerre où la fin est complètement imprévisible. Pour le moment, ils vont essayer de gérer ça sans trop prendre de risques. Vous savez que depuis des semaines, il y a des manifestations en Irak contre la présence iranienne dans ce pays et dans cette perspective, Washington a choisi d'intervenir au moment où, pour en tout cas pour lui, une partie de l'opinion publique et irakienne est très remontée contre l'Iran.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. Le général Soleimani, qui a déjà été remplacé, le guide suprême iranien, a nommé Esmaïl Kahani. Il sera donc le nouveau chef de la force Al-Quds. C'est l'unité d'élite des gardiens de la révolution. Isabelle Labéry, vous nous expliquez précisément son rôle au sein du régime d'Ali Khamenei.
La force Al-Quds, créée au début des années 90, est en quelque sorte la garde prétorienne du pouvoir iranien. Chargée des opérations extérieures, elle soutient les mouvements chiites de la région et fait plus largement la chasse aux ennemis de la République islamique. On ne connaît pas précisément ses effectifs, mais ses agents, recrutés parmi les commandos d'élite des gardiens de la Révolution, ont un spectre d'intervention très large, actions de renseignement, formation militaire, élimination ciblée de personnalités dissidentes, attentats, déstabilisation de gouvernements jugés hostiles. Le Liban est leur théâtre d'opérations privilégié à travers le Hezbollah, mais les combattants d'Al-Quds sont aussi au Yémen, en Syrie, où ils soutiennent l'allié stratégique de l'Iran, Bachar el-Assad. L'Irak est quant à lui un terrain que le général Soleimani connaissait par cœur. Il y avait combattu dans les années 80, y gagnant sa réputation de bravoure et son image de redoutable tacticien. Aujourd'hui, l'Iran soutient de façon active les milices Hashd al-Shaabi pour aider ces organisations paramilitaires à jouer un rôle politique de premier plan. L'un de leurs responsables a d'ailleurs trouvé lui aussi la mort dans ce raid américain.
Et direction maintenant Israël, autre acteur important au Moyen-Orient. Le pays, allié des États-Unis, soutient l'initiative de Washington et donc est très inquiet ce soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a écourté un déplacement en Grèce pour rentrer à Tel Aviv. Alice Roussard, vous êtes notre correspondante sur place. Les autorités redoutent des représailles de la République islamique ou de ses alliés dans la région.
Oui, Israël le sait, les représailles peuvent venir de tous les côtés, de la Syrie ou du Hezbollah libanais soutenu par l'Iran à la frontière nord, ou encore de la bande de Gaza au sud où le djihad islamique avait des liens de longue date avec Soleimani. Cela confirme une fois de plus le rôle central du chef de la force Al-Quds et ses efforts pour étendre l'influence de l'Iran dans la région. Soleimani, ce n'était pas n'importe qui, c'était selon les Israéliens l'ennemi numéro 1, le cerveau militaire de la guerre entre Israël et le Liban. L'homme accusé par Israël de préparer des attaques contre l'État hébreu, mais Israël s'était gardé de le viser directement par crainte d'un embrasement au Moyen-Orient. Alors à l'exception de Benjamin Netanyahou qui a interrompu son voyage en Grèce et qui a salué cette attaque avant de prendre son avion, côté israélien, on est plutôt dans la retenue. Pas de commentaires publics, c'est l'ordre qu'avaient reçu les ministres pour ne pas enflammer la situation et éviter toute implication. Prudence aussi hein, du côté des ambassades et des missions diplomatiques d'Israël à travers le monde, elles sont en état d'alerte. Le cabinet de sécurité s'est réuni lui aussi cet après-midi à Tel Aviv et une station de ski israélienne à la frontière du Liban et de la Syrie a été fermée. Elle avait été la cible de plusieurs tirs de roquettes ces dernières années.
Et puis autre réaction ce soir, l'Élysée qui appelle toutes les parties à la retenue, tandis que le Quai d'Orsay demande à Téhéran d'éviter toute réaction qui conduirait à une grave crise de prolifération nucléaire. L'Allemagne reconnaît une série de provocations militaires dont l'Iran est responsable et la porte-parole du gouvernement regarde avec inquiétude les activités de l'Iran dans la région. Enfin, Vladimir Poutine, le président russe, craint que cet assassinat n'aggrave sérieusement la situation au Proche-Orient. En France, le Val-de-Marne, en région parisienne, a connu cet après-midi une dramatique attaque au couteau. Un homme a poignardé des passants dans le parc départemental des Hautes-Bruyères, donc dans la ville de Villejuif. Un incident qui s'est produit vers 14h. Isabelle Souquet, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a 3 victimes, dont un mort.
Et c'est un habitant de Villejuif, âgé de 56 ans, qui a succombé, selon le maire de la ville. Il se promenait avec son épouse quand l'agresseur s'est approché et c'est en voulant protéger sa femme qu'il a pris les coups de couteau, dont un mortel. 2 autres personnes sont blessées, dont une grièvement. Elles ont été toutes 2 transportées à l'hôpital. L'agresseur quittait le parc des Hautes-Bruyères en direction du centre commercial tout proche de la Haie-les-Roses quand il s'est jeté sur des passants. La procureure de Créteil, qui s'est rendue sur place avec le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, et le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a précisé que l'agresseur avait aussi tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi, elles, à l'éviter. L'homme a ensuite été abattu par les forces de police, par la BAC du Kremlin-Bicêtre. Pour l'instant, on ne sait encore rien de cet homme, pas même son identité, rien non plus sur les motivations de son acte. La police judiciaire est chargée d'une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat. Le parquet antiterroriste s'est rendu sur place, mais n'a pas été saisi du dossier à ce stade.
Merci Isabelle Souquet pour ces premières informations. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour viol contre Gabriel Matzneff, cet écrivain de 83 ans, mis en cause pour ses relations avec des partenaires mineurs. Une mise en cause en lien avec la sortie du livre de Vanessa Springora, Le consentement, chez Grasset, l'éditrice qui était dans les matins de France Culture et que vous pouvez réécouter en une sur notre site internet, raconte comment elle a été abusée par Matzneff à l'âge de 13 ans. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Le dossier prend donc une tournure judiciaire.
Oui, en publiant son récit, Vanessa Springora avait indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de porter plainte. Le parquet de Paris a donc pris l'initiative de cette enquête, tout comme il l'a déjà fait récemment après les faits dénoncés par l'actrice Adèle Haenel à l'encontre du réalisateur Christophe Ruggia. En l'occurrence, c'est encore un récit, l'analyse du livre Le consentement, qui conduit à la décision du procureur de la République, même si les faits pourraient être prescrits, c'est encore un conditionnel. Cette décision s'inscrit en fait dans la politique engagée depuis quelques années par le parquet des mineurs. Elle consiste à ouvrir systématiquement une enquête sur des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineurs, quelle que soit leur exposition médiatique. Car même si ces enquêtes ne débouchent pas toujours sur un procès, selon le parquet, elles permettent aux victimes d'être entendues et parfois aux agresseurs de formuler des aveux ou des excuses. Les investigations confiées à l'Office central de répression des violences faites aux personnes vont également s'attacher à identifier d'autres victimes éventuelles, que ce soit en France ou à l'étranger. Gabriel Matzneff ayant mis en avant dans plusieurs de ses ouvrages des pratiques pédophiles avec de jeunes garçons. Mais au-delà des suites judiciaires désormais envisageables, le livre de Vanessa Springora a surtout rouvert le débat qu'il porte dans son titre autour de la question du consentement. La loi d'août 2018 a allongé le délai de prescription pour le crime sexuel commis sur des mineurs. Ce délai est passé de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime, mais cette loi n'a pas instauré d'âge minimal de consentement, même si Emmanuel Macron s'était personnellement déclaré favorable à le fixer à 15 ans, l'âge de la majorité sexuelle en France.
Merci Florence Sturm. La secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, mais aussi le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, appellent ce soir les victimes et les témoins à se rapprocher de la justice. Édouard Philippe a réitéré ce matin son souhait d'aboutir aussi vite que possible à un compromis avec les partenaires sociaux. À quelques jours de la reprise des négociations sur la réforme des retraites, le gouvernement s'est montré au travail. Donc ce matin, le Premier ministre ayant convoqué plusieurs de ses ministres à Matignon. Un gouvernement à l'épreuve d'un conflit social dur qui passe ce vendredi dans son deuxième mois avec 2 nouvelles mobilisations interprofessionnelles qui s'annoncent la semaine prochaine en plus de jeudi, vendredi et samedi. Donc CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à la manifestation. La CGT qui a d'ores et déjà commencé à tracter pour sensibiliser les manifestants. Bonsoir Cédric Hernel.
Bonsoir.
Vous étiez ce matin aux côtés du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinet, qui était donc en personne devant les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris.
Il fait grève juste derrière son lieu de travail. Jean-Jacques Liébert est salarié du Printemps depuis 35 ans. Il distribue des tracts aux passants depuis 10 heures ce matin, mais lui et ses collègues ont du mal à convaincre des salariés du privé.
Le commerce est plus difficile, surtout le mois de décembre, c'est un mois très important pour le commerce. Les salariés ont été très impactés. C'est que vous avez 70% de personnel mis à disposition, donc ce n'est pas des salariés Printemps. et qui sont, eux, payés au pourcentage, c'est-à-dire qu'ils ont été impactés. Comme le chiffre a baissé de 30%, ils ont été baissés aussi de 30%.
Une baisse de revenus difficile à supporter, raconte Céline. En grève pour la matinée, cet employé des Galeries Lafayette perdra sa journée de salaire, même si elle ne fait grève que quelques heures. Mais pas question de s'arrêter pour autant.
Les personnes du privé sont hyper conscientes du fait que tout le monde va y perdre. Parce qu'on essaye de nous dire que les cheminots, c'est des privilégiés, la RATP, c'est des privilégiés. Et dans les magasins que vous avez autour de vous, on s'est tous pris une grande claque dans la figure avec cette histoire de retraite. On sait tous qu'on va perdre beaucoup à la retraite et les salaires sont déjà bas dans nos secteurs.
Le passage prévu à une retraite à points est inadmissible pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui souhaite convaincre plus de salariés du privé.
On vient aussi discuter avec les salariés qui veulent savoir les conséquences de ce projet de réforme et qui ne veulent pas travailler jusqu'à 67 ans ou 70 ans en touchant une pension de 1000 euros.
Prochaine échéance, la manifestation du 9 janvier.
Merci Cédric Armel pour votre reportage. Et pour ce qui est des difficultés dans les transports ce week-end, la SNCF annonce des améliorations successives avec 7 TGV sur 10 samedi, 2 TGV sur 3 dimanche. Circulation qui reste compliquée néanmoins à la RATP, mais également en légère amélioration. 2 lignes de métro seulement fermées demain. L'enquête de France Culture ce vendredi, nous nous intéressons aux minorités chinoises en France, les Tibétains ou encore les Ouïghours, communauté musulmane persécutée par Pékin. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez constaté que ces exilés étaient également étroitement surveillés sur notre sol.
Oui, à commencer par les minorités musulmanes ouïghours. En France, ils sont près d'un millier et les rares qui acceptent de parler vous racontent tous des histoires de lettres de leur famille qu'ils ont reçues, des lettres qui ont visiblement été écrites sous la menace pour montrer aux exilés que Pékin peut, si nécessaire, faire pression sur leur famille. Résultat, beaucoup n'osent plus rentrer en Chine. C'est le cas d'Amil, il est ouïghour, réfugié et naturalisé français.
Après mon départ, mon père il a eu un emprisonnement de 3 mois pour savoir où je suis parti et quand je dois revenir. Du coup, à partir de cette date-là, je suis jamais possibilité de rentrer. J'ai essayé 2 fois avoir un visa en tant qu'une Française de rentrer chez moi pour voir ma famille, mais on m'a refusé 2009 une fois et 2013 une deuxième fois.
Et des exemples de ce type, j'en ai trouvé plusieurs. Mais il existe d'autres moyens de surveillance. Internet, par exemple. Plusieurs ONG ont récemment montré que Pékin utilisait les téléphones portables pour espionner une partie de sa population. Du coup, à Paris, Tenam, qui lui fait partie de la minorité tibétaine, se méfie de son smartphone et des applications développées par les entreprises chinoises.
Aujourd'hui, je suis très très prudent par rapport comment j'utilise mon portable, par exemple. Car je connais plein d'exemples quand les Tibétains ils ont utilisé WeChat pour envoyer quelques messages ou une photo de Dalai Lama qui se trouve aujourd'hui dans la prison.
Et ce climat d'intimidation ne serait pas propre aux minorités en exil. Marie Holzmann, une chercheuse française, elle aussi estime avoir fait l'objet de pression.
Je devais aller témoigner devant le Bundestag à Berlin l'année dernière et parler de la situation au Xinjiang et de la répression contre les Ouïghours. Et quelqu'un a pénétré chez moi, je n'étais pas chez moi à ce moment-là, et il a délibérément allumé toutes les lumières, ouvert des tiroirs, ouvert des coffrets, et il est reparti, il n'a touché à rien. Il a voulu montrer qu'on m'avait à l'œil.
On m'avait à l'œil, mais alors qui l'aurait à l'œil, Nathanaël? Qui sont ces espions supposés de Pékin en France?
Eh bien, par définition, des espions, ça avance à visage couvert. Mais écoutez, François-Yves Damon, expert au Centre français de recherche sur le renseignement, je lui ai justement demandé comment la Chine faisait pour surveiller ses ressortissants à l'étranger.
Elle utilise les moyens de ses services de renseignement, c'est-à-dire essentiellement des gens qui travaillent pour le ministère de la Sécurité d'État, Guo Hanbu. D'après les Canadiens, il y aurait environ 200 000 agents chinois travaillant à l'extérieur de la Chine. En France, combien sont-ils? C'est difficile. Quand je travaillais pour la DGSE, on me disait de toujours faire attention aux journalistes, parce que l'agence Xinhua, souvent, c'est du déguisement pour des agents de renseignement.
Alors Pékin a toujours mis en avant le risque terroriste pour justifier les persécutions exercées en Chine sur les Ouïghours. Mais pour ce qui est de la France, l'explication est signée d'Ilnou Rehan, sociologue d'origine ouïghour. Pour elle, cela prouve que la Chine n'est pas aussi puissante qu'elle veut le laisser penser.
Le régime chinois, il se sent tellement faible qu'elle est obligée d'intimider les quelques cents Ouïghours, en plus, ce sont souvent des étudiants, et que la Chine, elle craigne ces personnes-là, qu'elles deviennent activistes.
C'est pour ça qu'elle ne laisse rien passer ?
Exactement.
Enfin, il faut savoir que l'ambassadeur de Chine en France a refusé de donner sa version des faits. Dans un courrier, il explique que ces accusations sont absurdes et demande de ne pas diffuser cette enquête au nom, je cite, des bonnes relations qui existent entre la France et la Chine.
Merci Nathanaël Charbonnier. Et votre enquête est à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo pour votre samedi matin 4 janvier. Une belle journée d'hiver sur la plus grande partie du pays. Seules les régions Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté et l'Auvergne resteront sous les nuages une bonne partie de la journée. Les températures au réveil, 3 à Strasbourg, 4 à Lille, 5 à Paris, 6 à Brest, 8 à Bordeaux et jusqu'à 13 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.